Le journal, Simon Cardona.
Bonjour à tous. Un sommet surprise pour une rencontre historique. Il y a 10 minutes, Donald Trump et Kim Jong-un se sont serrés la main à la frontière des deux Corées. Un moment jugé improbable il y a encore 48 heures. Agriculteurs et écologistes déçus et en colère après l'accord signé entre l'Union européenne et le Mercosur, la réaction de Greenpeace dans ce journal. Autre cri de colère, celui des ONG de migrants. Elles publient ce dimanche un manifeste pour demander des moyens et de l'investissement au gouvernement français. En Tunisie, le tourisme va bon train malgré les attentats de jeudi dernier. Et à New York, la ville se prépare pour la Gay Pride. 3 millions de personnes sont attendues. Une séquence historique organisée en moins de 48 heures. Donald Trump est devenu, il y a quelques minutes, le premier président américain à se rendre sur la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Invité par Kim Jong-un, Monsieur Trump a même fait quelques pas en direction du pays nord-coréen. Le moment est historique et très symbolique, Frédéric Orjardias.
C'est une poignée de main extrêmement symbolique que vient d'accepter le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette rencontre impromptue avec Donald Trump a lieu à Panmunjom, qui est le seul point de contact entre nord et sud, le long de la frontière, une frontière ultra-militarisée qui incarne 7 décennies de division et d'hostilité entre Corée du Nord et États-Unis. Même si la rencontre Kim-Trump devrait se résumer à une simple séance photo, elle permet à Kim Jong-un de se présenter en homme d'État décisif qui veut la paix et qui accueille le président de la première puissance de la planète sur le pas de sa porte. Quant à Donald Trump, il envoie un message à son électorat, il peut continuer à faire croire que sa politique nord-coréenne porte ses fruits. En réalité, ce sommet, très peu préparé, ne devrait déboucher sur aucun accord, mais il reste vu de façon positive en Corée du Sud. Séoul espère que cette poignée de main permettra de relancer les pourparlers nucléaires.
Frédéric Ojardias, correspondant de RFI pour France Culture à Séoul, Donald Trump en a profité pour inviter Kim Jong-un à la Maison Blanche. L'accord ne passe pas du tout auprès des agriculteurs et des écologistes. Ils ne comprennent pas pourquoi Emmanuel Macron a accepté l'accord commercial signé vendredi soir entre l'Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud. Mais après 20 ans de négociations, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay vont bien faciliter leurs échanges avec l'Union européenne. Un triste accord extrêmement mauvais pour la protection de la nature et la lutte contre le réchauffement climatique, dénoncent les ONG. Cécile Lebas est chargée de campagne pour les forêts au sein de Greenpeace.
L'un des principaux risques de la signature de cet accord de libre-échange, c'est l'augmentation de la déforestation en Amérique latine, en particulier au Brésil et en Argentine, et en particulier sur des écosystèmes précieux comme l'Amazonie, comme le Grand Chaco ou comme le Cerrado, parce qu'on sait très bien que ces écosystèmes sont avant tout détruits pour produire du soja qu'on importe ensuite en France et en Europe pour nourrir nos animaux d'élevage, et sont aussi détruits pour produire du bœuf qui pourrait du coup être exporté vers l'Union européenne, parce que l'objectif de cet accord de libre-échange, ou un des objectifs de cet accord de libre-échange, c'est de doper les exportations de bœuf, alors que nous, en France et en Europe, on consomme déjà trop de viande et de produits laitiers, donc c'est vraiment un non-sens écologique. C'est un exemple de plus de l'hypocrisie du gouvernement en matière de changement climatique.
La réaction de Cécile Lebas, chargée de campagne pour les forêts à Greenpeace. Union européenne toujours, avec le Conseil des 28 réuni cet après-midi à Bruxelles. Le Conseil européen va se pencher sur les nominations aux postes clés de l'Union européenne. Rien n'est assuré car le thème avait déjà été abordé lors du précédent Conseil et aucun débouché n'avait été trouvé. Paris, Nantes, Strasbourg ou Toulouse, le problème des bidonvilles et des squats s'aggrave, alertent les associations et les ONG d'aide aux migrants. Elles interpellent le gouvernement dans un manifeste publié ce matin. Selon elles, la situation continue de se dégrader dans les grandes villes à cause d'un manque de moyens et de volonté politique. Explication de Yann Gallic.
En théorie, l'État français est obligé d'accompagner tous les demandeurs d'asile, mais dans la réalité, moins d'une personne sur deux est hébergée dans le dispositif national d'accueil, qui ne compte aujourd'hui que 90 000 places pour 180 000 demandeurs. Conséquence, les campements sauvages, les bidonvilles et les squats se développent dans les villes comme Paris, Nantes, Strasbourg, Bordeaux ou Toulouse. Philippe de Botton est le président de Médecins du Monde.
Partout en France, il y a des gros problèmes de squats de bidonvilles. Je crois que sur Toulouse, il y a à peu près 1000 personnes en squat. Enfin, ça ne peut plus durer. C'est-à-dire que les associations n'en peuvent plus. Donc, il faut vraiment trouver des solutions. Et la solution, la première, c'est de mettre les gens sous un toit. Il n'y a pas de santé sans toit.
Selon Philippe de Botton, le durcissement et la dégradation des conditions d'accueil est aussi une manière de décourager les demandes d'asile.
Ce qu'on demande, nous, c'est surtout que l'État assume son rôle. Ces personnes ont besoin de structures de repos, de répit. Il faut donc une inconditionnalité de l'accueil. Il faut une volonté politique, il faut du courage politique. Or, à l'heure actuelle, ce gouvernement est, à mon avis, un gouvernement qui favorise les exclusions, qui favorise l'expulsion et qui ne veut pas de ces personnes.
Les associations d'aide aux migrants réclament des mesures d'hébergement d'urgence et une véritable politique pour mettre fin, disent-elles, à cette situation indigne de notre pays.
Yann Gallic pour France Culture. Autre cri du cœur ce matin, celui de l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, dans Dimanche Ouest France. Il appelle à l'unité par-delà les clivages politiques pour affronter, je cite, « la guerre contre le dérèglement climatique ». Pour cela, il faudra réformer un modèle économique obsolète. Nous sommes au bord de l'abîme, a prévenu l'ancien ministre. Des millions de personnes attendues dans les rues de Manhattan à New York cet après-midi. Une gay pride monstre, la plus grande du monde et l'une des plus importantes de l'histoire. 50 ans après les émeutes de Stonewall, considérée aujourd'hui comme un acte fondateur du militantisme LGBT aux États-Unis mais aussi à travers le monde. Dulce, venue de Washington, se trouvait hier dans le Stonewall, le bar où la génération précédente a lancé le mouvement. Elle est émue à l'idée de participer aujourd'hui à cette marche historique.
Je suis lesbienne, je l'ai annoncé lorsque j'avais 17 ans, j'en ai 50 aujourd'hui, et je crois que je suis née de cette génération, les anciens de Stonewall. Chaque année, c'est quelque chose d'important, je suis très émue à l'idée de voir des gens qui sont fiers de qui ils sont. Vous savez, être avec des personnes heureuses, à l'aise avec elles-mêmes, avec cette communauté qui les accueille, je veux dire, c'est quelque chose de primordial. Alors oui, j'ai hâte, nous allons marcher, vous savez, on va juste profiter de la journée. Ma partenaire et moi, nous sommes ensemble depuis 15 ans et sa nièce est aussi là avec sa partenaire. C'est une histoire de famille, alors on va juste apprécier ce week-end.
Dulce, militante LGBT à New York, à Paris, la marche des fiertés a rassemblé plusieurs milliers de personnes hier après-midi. En Tunisie, les attentats de jeudi dernier ne semblent pas avoir fait du mal au tourisme. La haute saison a commencé et aucune annulation de masse n'a été enregistrée, assurent les autorités. L'année 2019 pourrait même battre un record d'affluence. 8 millions de visiteurs sont attendus. Une bonne nouvelle pour ce pays où le tourisme est si important. Le secteur représente 14% du PIB. Reportage dans l'une des stations balnéaires emblématiques du pays, Hammamet, et l'un de ces hôtels de luxe qu'a visité notre envoyé spécial Benjamin Illy.
Nous arrivons dans un hôtel 5 étoiles, hôtel La Badira.
Les sacs sur le flé ?
Fouille minutieuse. On vide ses poches, un portique à l'entrée, détecteur de métaux.
Soyez les bienvenus à La Badira.
Plage de l'hôtel, des transats, tout va bien ?
Ouais, très vrai. On est là pour un week-end pour fuir un petit peu le stress de Paris.
Au lendemain des attentats.
C'est ça, exactement. On s'est posé la question à savoir si on devait ou pas annuler. Mais on s'est dit, bon, c'est malheureusement des choses aujourd'hui qui arrivent même à Paris. Donc on a pris le risque, mais c'est un risque mesuré.
Bonjour.
Mouna Ben Halima.
La propriétaire de l'hôtel La Badira.
Donc il y a eu ces attentats jeudi à Tunis. Est-ce qu'il y a eu un impact au niveau de votre établissement ?
Nous avons eu 4 mails d'annulation le jour même. Suite à ça, sur les 4 mails, il y a 3 qui sont revenus le lendemain pour dire « on maintient nos réservations ». Rabbi wafaq betaoufiq. Betaoufiq, c'est la réussite en fait de la saison.
Ça veut dire ça ?
Et c'est très important que l'économie marche pour pouvoir convaincre la population un peu désenchantée qu'il y a réellement un meilleur avenir avec la démocratie. Voilà, betaoufiq.
Betaoufiq, je tiens.
Bon élève.
Benjamin Illy, envoyé spécial de France Culture à Hammamet en Tunisie. Les incendies ont dévasté le Gard dans le sud de la France hier. 550 hectares de végétation partis en fumée en 48 heures. 300 habitants ont dû être évacués. 6 maisons ont été brûlées. Maintenant que tous les incendies sont maîtrisés, place aux questions pour les habitants sinistrés. Un pyromane a bien été arrêté, mais d'après les forces de l'ordre, ce n'est pas le seul facteur. 31 départs de feu ont été signalés en même temps. La canicule fait aussi réagir les politiques, dont Yannick Jadot. Dans le journal du dimanche publié ce matin, le député européen Europe Écologie Les Verts propose de mettre en place des congés canicule, de végétaliser les villes et de proposer la gratuité des transports publics. Des mesures indispensables selon Yannick Jadot si l'on veut faire face à la multiplication des épisodes caniculaires ces prochaines années. La météo et un vent d'air frais salvateur nous arrivent du nord-ouest. Après 6 jours de canicule exceptionnelle pour un mois de juin, ce dimanche va être plus respirable, on l'espère, en tout cas pour la moitié du nord du pays, dont Paris. Par contre, il va continuer à faire chaud en Alsace et dans la vallée du Rhône où le mercure va se situer entre 38 et 40 degrés. Dans le sud, 32 départements restent en vigilance orange.